La crise actuelle, on a ce qui est vrai, vous voyez, ce qu'on voit se déployer en France, où on dit, ben voilà, il faut aller encore plus loin dans la politique que l'on a faite, alors même qu'elle ne marche plus. Eh bien, vous avez la même chose au niveau de la crise européenne aujourd'hui. On vous dit quoi, en gros? On vous dit, il y a une crise en Europe, c'est de la faute des États, c'est de la faute des fonctionnements du marché du travail. Donc, si vous allez en ce moment en Grèce, au Portugal, et même finalement ce que l'on nous vend aussi en France, il faut réduire la dépense publique, il faut flexibiliser le marché du travail. Le raisonnement est simple, c'est, on n'est pas, ces politiques-là, elles ont déjà été mises en œuvre. La flexibilisation du marché du travail, à nouveau, ces prescriptions de l'OCDE, on les voit partout, ces réformes structurelles. Ça fait depuis 20 ans qu'on fait partout ces réformes structurelles. Maintenant, le raisonnement qui est vendu, c'est de dire, on a la crise parce qu'on n'est pas allé assez loin dans ces réformes. Donc, vous voyez, à nouveau, le discours que l'on a en France est décliné dans les différents pays européens et par les instances européennes. Et là aussi, vous avez, donc là, au niveau de la Commission européenne, ce qu'on appelle ECFIN, au niveau de l'OCDE, au niveau du FMI, ces institutions-là portent ce discours. Mais là aussi, c'est la même chose. Elles l'ont porté, ce discours, et c'était leur discours central pendant des décennies. Elles préfèrent ne pas se remettre en cause, tout du moins publiquement, et d'aller encore plus loin. D'accord? Donc on va encore plus loin sur ces éléments-là. Si vous revenez à mon slide, là, vous verrez, en gros, on applique vraiment ça aujourd'hui, ouais, alors qu'on a une crise majeure. Alors, c'est pour ça que j'avais commencé en vous disant on est à un moment, en quelque sorte, de rupture, puisque je pense, d'un point de vue un petit peu épistémologique, que l'on est à peu près dans le même type de situation qu'à la fin des années 1970. Donc, fin des années 70, à nouveau, on a une crise économique, de l'inflation, du chômage, on ne sait pas l'expliquer, il y a de nouvelles théories qui s'imposent et qui balayent les précédentes. Enfin, pas qui balayent, elles sont toujours présentes, c'est toujours dans la réflexion ou autre, mais qui vont balayer au sens qu'elles vont envahir le champ académique et le champ de la décision publique. Je pense qu'on est dans le même moment de rupture, c'est-à-dire qu'on a des séries de paradigmes qui ne trouvent comme seul argumentaire le fait qu'on n'est pas allé assez loin dans leur sens pour prolonger leur politique. Bien. Donc vous avez donc ces tenants-là. Je ne sais pas si vous voulez, au moment présent, peut-être finalement, ces politiques d'austérité, de libéralisation du marché du travail, etc., vont faire rebondir l'Europe. Et on pourra dire que c'est revival de... c'est un petit peu comme, je ne sais pas moi, un film américain. Type à la fin du film précédent, il est mort. Ben non, hop, il se récupère au début du film suivant. Donc, peut-être, ces politiques vont fonctionner. Ce n'est qu'un peut-être parce que finalement, aujourd'hui, en gros, le roi est nu dans le sens que aucune théorie économique, aucun des économistes n'avait prévu la crise. On a même du mal à comprendre ce qui s'est passé pendant cette crise-là. C'est-à-dire qu'aucun modèle, aujourd'hui, on commence à en avoir un petit peu, on commence à comprendre, n'est capable d'expliquer pourquoi le commerce international s'est effondré en 2009. Je ne sais pas l'expliquer, pourquoi il s'est effondré aussi massivement. Bon. Donc, on a toutes sortes de trous béants dans la théorie économique. Alors, surtout, ce que l'on a, c'est que finalement, il y a des blocs maintenant qui s'affrontent au sens de la réflexion avec c'est vrai au niveau du monde académique, mais même au niveau des administrations. Vous avez peut-être vu passer récemment là, le BIT qui a sorti un document disant que c'était de la faute de l'Allemagne s'il y avait la crise. Vous voyez, renverser les choses en disant que c'est la politique allemande d'austérité salariale qui crée la crise en Europe. Alors, c'est intéressant. Le BIT, je ne vous en avais pas parlé jusqu'à présent, il n'avait pas du tout été dans ces affaires-là de prescription du FMI, de l'OCDE ou autre. Il était exclu de ça. Le BIT aujourd'hui revient. Alors, il revient pour une bonne raison, qu'on est passé du G8 au G20. Donc, le G8, vous aviez principalement des pays de l'OCDE. Donc l'OCDE était l'institution centrale pour apporté la réflexion. Et maintenant, on est passé au G20. Le G20, vous n'avez pas le Brésil, hein, ni l'Inde, ni la Chine dans l'OCDE. Pas près de les avoir. En revanche, ils sont au BIT. Donc, ce basculement fait qu'aujourd'hui, le BIT a non seulement un poids institutionnel nouveau, en quelque sorte, voilà, parce qu'il y a le monde émergent et qu'il est, lui, représentant depuis longtemps également du monde émergent. Et il se trouve que le BIT a toujours tenu, mais il ne pouvait pas, on ne lui demandait pas son avis, mais il tenait toujours un discours qui était différent des autres institutions internationales. Donc, il y a un match au niveau du monde académique, hein, pour simplifier, en gros, hein, voilà, et il y a un match au niveau des institutions, hein, vous voyez, en plus, c'est Genève-Paris, c'est pas très très éloigné, c'est un petit peu comme le derby Saint-Étienne-Lyon. Mais derrière cela, quand même, il y a comme enjeu la définition de ce que peut être la politique micro et macroéconomique pour les décennies qui viennent. Et donc, par derrière, comment solutionner des millions de chômeurs, la pauvreté, retrouver de la croissance, etc. Bon. Alors, quel est le je vais vous donner un exemple, en quelque sorte, de scénario alternatif à la vision théorique dominante qui est « on n'est pas allé assez loin ». Donc, à nouveau, on n'est pas allé assez loin, c'est de la faute des États, ils dépensent trop, etc. etc. Bon. Alors, cette vision différente, une vision alternative, au point, je vais aller quand même à la hache, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments potentiellement à donner. C'est de partir de justement, de reprendre les éléments clés, donc le ruissellement, la libéralisation financière, on va rajouter aussi ce qui est différent, hein, la financiarisation, voilà, des modes de production. Qu'est-ce que je vais rajouter encore? Et puis, donc, vous avez tout ce qui est libéralisation du marché du travail. Ah, décidément, je ne suis pas en forme, hein, pour écrire. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Donc ça, on accepte qu'il y ait des inégalités et on fait en sorte que les inégalités soient les plus larges possibles. On a une libéralisation financière qui fait que le secteur financier peut s'accroître. On a une financiarisation au sens que finalement, l'objectif de l'entreprise devient son objectif financier trimestriel. Vraiment, je vous assure, très impressionnant, lorsque vous discutez avec des patrons de CAC 40, ils vous disent « je fais une transformation structurelle de mon entreprise pour que le trimestre prochain, les résultats soient supérieurs ». Bon, donc on a une vision donc, de l'objectif financier court terme. Et puis, on a donc cette libéralisation du marché du travail qui est quelque chose qui effrite le salariat, qui fait baisser donc, le bêta et le B, etc. D'accord ? Bon. Alors, tout ça induit un phénomène, plusieurs phénomènes, un phénomène global, si on prend les pays de l'OCDE, qui est, alors ça, vous devez en parler, hein, le partage de la valeur ajoutée. Voilà. D'accord ? La part du travail. Alors, il se trouve en France, on a quelque chose qui, alors si on prend les... À la limite, c'est pas très très grave. Vous voyez, je vais même pas rentrer dans le débat, est-ce qu'on était avant, après, je vais me placer en 1990. Voilà. Donc en France... On a quelque chose qui semble, grosso modo, relativement plat. C'est assez étonnant, hein, c'est relativement plat. C'est pour le secteur non financier. Bon. Mais on est en fait l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire que le phénomène que l'on observe dans l'immense majorité des pays développés, c'est ça. Paf, une baisse de la part du travail. en Allemagne, en Irlande. L'Irlande est par exemple un pays spectaculaire. L'Irlande, il y a eu 20 points de moins sur une décennie. Bon, effondrement de la part du travail. OK ? Bon. Donc ça, c'est au sein de la part du travail. Maintenant, au sein... c'est entre capital et travail. Maintenant, si on regarde au niveau au sein de la part du travail, vous avez la part des hauts revenus, des hauts salaires. Voilà. Au sein du travail, ou enfin des hauts salaires, je vais rajouter aussi plus, effectivement, les hauts revenus, puisque c'est très important de tenir compte des indépendants, tous les avocats, les notaires, etc., les médecins. Bon. Leur part, eh bien, ça c'est vrai, pour le coup, en France comme ailleurs, elle fait ça, slatch. D'accord ? Bien. Et, dernier élément, sur la part du capital, au sein de la part du capital, donc ça c'est au sein du travail, au sein du capital, vous avez l'investissement qui a plutôt tendance à décliner. OK ? Et donc, qu'est-ce qui augmente ? Les dividendes. OK ? Donc, en gros, tout ça, c'est prescription des théories dominantes. Et là, c'est un exemple de conséquence. Vous voyez, il ne faut pas regarder ça comme étant... c'est qu'un élément d'un diagnostic. Bien. Alors, qu'est-ce que ça implique, ce genre de machin-là, ces transformations ? Uniquement se concentrer là-dessus. Si on se concentre là-dessus, eh bien, on obtient quoi ? Voyons, par exemple, la très forte hausse des inégalités. Vous allez avoir quoi ? Eh bien, regardons du côté de la sphère financière. Donc, vous avez des personnes qui sont plus riches. Lorsque vous êtes plus riche, alors en gros, là, c'est intéressant, hein, dans les styles de résultats que l'on a de microéconomie, c'est en gros, si vous êtes au-dessus de 70 000 euros, et mettons 100 000 euros de revenus par tête, dans une famille, eh bien, à ce moment-là, votre consommation sature. Vous êtes plutôt en situation de saturation de consommation. Bon. Et alors, qu'est-ce que vous faites de votre argent si vous êtes en saturation de consommation ? Vous épargnez. Bon. Et votre épargne, comme vous êtes riche, c'est pas parce que vous êtes peu averse au risque, mais surtout vous êtes riche, donc vous pouvez prendre des risques. Voilà. Et donc, vous faites quoi ? Vous faites vous allez voir votre banquier va vous dire je vais vous proposer des hauts rendements sur des actifs risqués. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme actif risqué ? Un actif risqué, c'est par exemple les subprimes. Parce que dans le même temps, vous avez une augmentation des inégalités. En gros, une petite proportion de la population de plus en plus riche. Mais le reste de la population qui stagne, voire régresse. Aux États-Unis, c'est qui régresse. Eh bien, cette population-là, et ça aussi, c'est un résultat absolument spectaculaire, au même moment, jusqu'à la crise de 2007, alors que les inégalités de revenus augmentaient, si vous regardiez les inégalités de consommation, elles étaient parfaitement stables. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, et donc ça c'est cohérent hein, d'ailleurs par le fait de saturation pour les hauts revenus, vous êtes de plus en plus riches, mais vous ne consommez pas plus, mais ceux qui sont en bas, eux, ils gagnent moins ou toujours autant, comment ils peuvent faire pour consommer plus ? Ils s'endettent. Et la dette du pauvre, c'est quelque chose où il y a des taux d'intérêt élevés, c'est risqué, vous le titrisez, c'est ce qu'achète le riche. D'accord ? Donc, dans les éléments d'interprétation, vous voyez, si on va au bout de ce schéma-là, cette politique-là crée structurellement une instabilité financière. Parce que c'est bien beau, vous voyez, dans cette interprétation-là, c'est bien beau de dire que c'est de la faute des banques, etc. Mais si les banques n'avaient pas des clients qui veulent emprunter, qui ont besoin d'emprunter, et des clients qui veulent acheter du risque, il n'y aurait pas ce problème-là. Donc, en gros, lorsque vous regardez donc, l'apparition, il y a une sorte... vous avez les moments d'explosion des inégalités, l'apparition justement de tous ces produits dérivés ou autres suivent l'augmentation des inégalités. Elles arrivent 2-3 ans après. Donc, comme si, en fait, les entreprises, l'industrie financière, certes, n'était pas régulée, etc., ou autre, mais elles répondent à une demande. Et donc, vous aurez beau faire de la régulation ou autre, l'inventivité, l'innovation financière est telle que tant qu'il y a cette demande, on aura l'instabilité financière. C'est intéressant de voir que sur les États-Unis, lorsque vous regardez les inégalités de revenus et de patrimoine américain en 2007, ils étaient au niveau de ceux de 1928. Pile au même niveau. Bon, de là à dire qu'il y a une sorte de constante où on ne peut pas aller au-delà d'inégalités. Bien. Alors, vous voyez, donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que si on continue les politiques structurelles, aller plus loin dans la libéralisation du marché du travail, bon, eh bien, vous allez faire quoi? Que accentuer cette mécanique. Et donc, encore plus, léguer une situation d'instabilité financière chronique de nos économies. D'accord? Donc ça, c'est l'instabilité financière. C'est bien beau. Mais vous voyez, à partir d'un moment, et vous voyez, c'est peut-être ce sur quoi on est arrivé... Oh, il n'y a plus de tableau. Je vais effacer, là. Aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est bien beau. Les gens, ils s'endettent pour consommer. Mais est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, ils peuvent autant s'endetter qu'auparavant? Vous êtes aux US, partout. En Espagne, mettons. Vous croyez que vous pouvez acheter une maison facilement aujourd'hui en Espagne? La réponse est clairement non. Bien. Donc, ça avait un autre effet, cette situation. Cette situation, elle lègue quoi? Elle lègue que, hors, en quelque sorte, bulle, puisque les subprimes, etc., c'est une bulle, et une situation où, indéfiniment, ceux d'en bas sont obligés de s'endetter de plus en plus et ceux d'en haut de leur prêter, c'est une situation de bulle. Hors bulle, on a structurellement un niveau de sous-consommation. OK ? Voilà, donc non seulement on a une instabilité chronique, mais on n'a pas de croissance, puisqu'on a une sous-consommation chronique. Et donc, une interprétation de la crise, les pays qui sont les plus touchés, c'est les US, c'est l'Irlande, c'est l'Espagne. Ce ne sont que des pays, tous ces pays-là avaient des bulles immobilières. Tous. Et tous avaient un taux de chômage, soit qui avait très fortement baissé, soit, n'oubliez pas, à l'Irlande, en 2005, on disait, c'est le modèle qu'il faut absolument suivre, il y a pas de chômage. Les US aussi, il n'y a pas de chômage. Bon, mais c'était des pays où, finalement, on peut faire une réinterprétation de leur absence de chômage ou des bons résultats de l'Espagne comme étant des résultats d'une économie en sous-consommation plus bulle qui fait un plein emploi, en quelque sorte, mais un plein emploi insoutenable. OK ? Donc, voilà, si on boucle la boucle, en quelque sorte, c'est le monde... Tchouk, on revient ici. Donc, toutes ces nouvelles prescriptions, théories ou autres, auraient donné donc une phase... De croissance économique, de développement ou autre, mais qui aurait, à partir d'un moment, généré une situation d'instabilité financière chronique, de sous-consommation chronique, et aussi, puisque les investissements baissent, de sous-investissement chronique et de sous-production chronique. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si vous regardez croissance de la productivité en Europe, en gros, elle est, si on prend la PGF, la productivité globale des facteurs, jusqu'en 1990, elle est quasiment à plat, elle remonte d'un bon point à partir de 1990 jusqu'à 2000, et elle se retrouve à nouveau à plat. Donc on a également des économies qui ne sont pas en capacité. Vous voyez, si on réfléchit, là, je fais le versant demande, et là, je fais le versant offre. OK ? Donc, ah, superbe, on aurait, je vous dis bien, c'est une interprétation alternative. Je ne dis pas qu'il y a une... voilà, on a raison. Mais, enfin, le on, je ne sais même pas qui est on. Mais voilà, on aurait structurellement une instabilité financière, structurellement une sous-consommation, un sous-investissement, et donc pas de croissance. Du déficit public et du chômage. OK ? Voilà. Alors, je vais terminer là-dessus, juste pour dire, voilà, on est aujourd'hui là. C'est-à-dire qu'on applique de plus en plus fort cette politique-là. Si on croit à ces visions alternatives, à un moment, on va tout simplement constater qu'on est mort, en gros, et ce qui est en train de poindre comme analyse en quelque sorte alternative des fonctionnements des économies. Du coup, il faut totalement changer les prescriptions. Je ne vais pas vous faire toutes les listes de prescriptions qu'on peut imaginer à partir de là, mais il faut changer les prescriptions de la politique économique. Voilà, donc on est à ce moment-là, voilà, aujourd'hui.
Et... Une question. Oui. Cette situation de sous-consommation, elle ne s'appliquerait pas à la France, du coup ?
Alors, à la France, ce qui est intéressant à la France, justement, c'est qu'on est un pays où, si on regarde notre fameuse courbe, on avait maintenu tout du long, si vous voulez, enfin celle-là, là, on avait maintenu tout du long le salaire minimum. On était un pays où, quand même, on continuait à essayer de faire des politiques de redistribution. La sous-consommation, on va la connaître aujourd'hui, justement. Enfin, tous les plans... de restrictions budgétaires qui sont mises en œuvre vont faire ça. Déjà, elle a flanché au mois de décembre, et au mois de janvier, elle va s'effondrer, la consommation, et ça va être de pis en pis, lorsque vous avez non-revalorisation des allocations familiales, etc. Donc nous, voilà, on avait effectivement une politique qui, il faut le dire, même Sarkozy, il a fait un vrai plan de relance, bien plus fort. En Italie, par exemple, il n'y a pas eu de plan de relance. Donc, il y a eu ces éléments-là qui ont soutenu même la consommation pendant la crise. Il n'y a pas du tout. Il n'y a pas eu une politique de contraction, hein, en France. Donc, d'une certaine manière, voilà, c'est, à nouveau, ça peut s'expliquer, si vous voulez, par la politique particulière en France, le fait qu'on n'ait pas eu encore cet effondrement, mais que ça serait aujourd'hui. Voyez. Donc, en gros, il y a deux scénarios. Soit, d'une certaine manière, l'Europe va se remettre à rebondir dès l'année prochaine, voilà, parce que finalement, en faisant tout ça, on joue à fond sur du côté de l'offre, et il va y avoir toutes sortes d'entrepreneurs, notamment, mettons, des chômeurs qui vont se mettre à être des entrepreneurs, à créer de l'emploi, et tout ça va repartir. Bon. Soit on a un autre scénario qui est effondrement de la consommation en France, dans d'autres pays européens, l'Allemagne qui chute également, le Portugal qui ne peut plus emprunter sur les marchés financiers et qui donc il faut également... le Portugal qui applique pourtant strictement hein, tout ce qu'on lui exige. Bon. Et au bout du compte, eh bien, en 2014, voilà, c'est intéressant, 2014... 40 ans après 1974, voilà, je vais y arriver. 40 ans après 1974, on aurait, ben voilà, une situation de crise tellement profonde que on serait obligé de modifier la politique économique. On va voir, on est à un moment en quelque sorte de tournant. Donc, je vous dis à nouveau, il y a un moment d'incertitude où il y a à la fois un conflit d'institutions internationales, grande discussion au sein du monde académique, et finalement, c'est les faits qui vont, de la même manière à nouveau que la politique de Volcker, ça avait été les faits qui avaient tranché entre deux visions du monde, deux visions macroéconomiques, là, on va avoir la politique qui est tentée dans un sens particulier, qui va, selon sa réussite ou son échec, trancher entre une vision qui est celle qui est à nouveau l'héritage des années 80 et début des années 90, et des nouvelles analyses qui émergent.
Et justement, sur ces nouvelles analyses, alors, si on essaye de faire la comparaison, dans les années 70, face à la relative faillite ou l'inefficacité des politiques keynésiennes, il y avait, si j'ose dire, un arsenal alternatif, ou en tout cas, il y avait toute une idéologie portée par la société du Mont-Pèlerin qui permettait justement de présenter des outils différents. Et est-ce qu'on a aujourd'hui cet arsenal idéologique et scientifique ?
Il est en train de se construire, justement. C'est pas quelque chose de si... Vous voyez, par exemple, vous avez justement le BIT, hein, par exemple, il fait ce qu'on appelle des brainstorming conferences, donc ces trucs fermés, où il invite des experts de différents pays européens, justement pour que... des experts et des politiques. Tout ça, à Genève, tranquille, pas loin du lac ou autre, pour construire une réflexion globale, intellectuelle et politique, pouvant amener à des politiques alternatives. Et ce qu'on se rend compte, il y a beaucoup de gens qui vont, on se rend compte qu'il y a une très grande convergence au niveau des pays européens, des différents pays européens, de plus en plus d'universitaires, d'intellectuels sont sur ce segment-là. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est qu'au sein même des administrations, il faut bien voir, je vous dis, voilà, il y a l'OCDE qui dit ça, mais l'économiste de base dans cette institution, il y en a beaucoup qui disent, on dit n'importe quoi, mais la logique institutionnelle nous oblige à dire ça. Donc, le fait déjà qu'il y ait des personnes à la base qui disent « on dit n'importe quoi, on sait que ce n'est pas la bonne politique qu'il faut faire, il faut changer d'analyse ou autre », eh bien, à un moment ou à un autre, vous voyez, le basculement va pouvoir s'opérer. Bon, si, à nouveau, les faits, ce qui est toujours l'élément en quelque sorte saillant, c'est qu'il faut que les faits, à un moment ou à un autre, donnent le petit coup de pouce aux uns ou aux autres. Pour ça, ça peut paraître paradoxal, mais ceux qui sont tenants de ces visions-là, même s'ils ne souhaitent pas qu'il y ait des millions de chômeurs supplémentaires, il leur faut ces millions de chômeurs pour s'imposer.
J'avais une question par rapport justement à l'enseignement de ces politiques de l'emploi à nos élèves. Donc, dans les nouveaux programmes, on nous dit qu'il faudra analyser les politiques macroéconomiques de soutien à la demande, donc pour lutter contre le chômage keynésien, et les politiques d'allègement du coût du travail pour lutter contre le chômage classique, et les politiques plus structurelles de flexibilisation du marché du travail. Et par rapport à ces notions de chômage classique, chômage keynésien, est-ce que c'est toujours dans ces termes-là que se posent les questions et, voilà, moi, ça me paraît des théories anciennes, quoi.
Voilà, oui.
Est-ce que c'est toujours pertinent de poser le débat dans ces termes-là de chômage classique, chômage keynésien ?
Si vous voulez, vous voyez quand même mon segment de sous-consommation, on peut l'interpréter comme un format renouvelé d'une interprétation keynésienne. Pour le coup, le chômage classique, vous l'avez là. Donc, je pense que vous pouvez encore, d'une certaine manière, puisqu'il n'y a pas vraiment... La nouvelle théorie n'a pas encore de nom. Vous pouvez, je pense, continuer à vous appuyer sur ça, plutôt pour dire que finalement, c'est encore des visions qui structurent la décision publique et le débat public. Donc, vous n'avez pas besoin de... Vous pouvez tout à fait dire, je pense, que le monde académique, lui, est en train d'évoluer et que probablement les programmes, dans 3-4 ans, devront être différents. Mais qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que, oui, vous pouvez... Mais à la limite, peut-être justement en mettant un petit peu un horizon historique et en disant que ces théories sont apparues à des moments justement de crise, hein, le keynésianisme est des moments de crise. Enfin, voilà, chacune d'elles est arrivée à un moment de crise. Ça permet aussi... en soi, les théories ne sont jamais périmées. Il y a simplement... C'est comme les théories en physique. Hein, vous avez... Pas parce qu'il y a la théorie de la relativité qu'on va considérer que la mécanique classique est périmée. Non, vous avez l'un et puis vous avez une couche supplémentaire. Donc je crois que vraiment, si vous... Vous pouvez tout à fait dire, elles sont arrivées à des moments chaque fois de crise. Aujourd'hui, on a un moment de crise. Certainement, il va y avoir quelque chose de nouveau, mais elles sont toujours présentes dans le champ de la réflexion. Et peut-être vous pouvez, plutôt que de parler de la France ou autre, c'est intéressant à ce moment-là de parler des États-Unis. C'est intéressant de voir que la politique que fait Obama est une politique purement keynésienne. Il fait vraiment une politique de... Voilà, il y a du déficit public absolument massif. Il y a du soutien, par exemple, aux emplois d'enseignants. Donc il fait une politique keynésienne. Là aussi, c'est intéressant parce que, à nouveau, si les États-Unis, eux, retrouvent le sentier de la croissance et d'une baisse du chômage, ça va opérer une bascule sur la politique européenne potentiellement majeure. Donc, voilà, peut-être vous pouvez encore mettre en scène des choses, mais peut-être justement dans ce conflit, enfin, cette différence transatlantique.
Est-ce que vous auriez des indications bibliographiques qui vous permettent
de... Alors, je vous invite, alors, notamment, vous pouvez aller voir, il y a toute une... Donc le BIT, depuis maintenant 3-4 mois, donc le Bureau international du travail, sort document sur document. Il bombarde sur ces alternatives. Donc vous savez, par exemple, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas grave, enfin, donc c'est sorti au mois de novembre, c'est un des chapitres de leur ouvrage annuel. Vous avez ça, ce que je vous ai décrit là, celui-là. Ce schéma sur le partage de la valeur ajoutée et ses conséquences. Donc là, il y a des chiffres sur plein de pays. Hein. D'ailleurs, il montre que c'est un phénomène qui va au-delà des pays, des pays de l'OCDE. Donc ça se trouve. Donc si vous voulez vraiment avoir de la source qui soit facilement accessible, vraiment le BIT est en pointe actuellement. Vous allez sur le site web du BIT, vous allez trouver. Ils sont publiés. En plus, il n'y a même pas à payer. Hein, c'est fichier PDF. C'est une fois sur deux traduit en français. En tout cas, au moins, c'est toujours en anglais. On peut dire, depuis 1er octobre, ils sortent document sur document. Puis vous pouvez même, donc il y a ce qu'ils appellent, alors il y a un institut, je ne sais plus comment, le nom exact de l'institut, mais il y a un institut, et cet institut, ces documents de travail sont faciles à lire aussi, ils sont vraiment accessibles, c'est essentiellement des graphiques, des tableaux ou autres, normalement des choses, comme enseignant, aucun problème pour lire ça, et je pense que ces quelques tableaux et graphiques sont assez faciles à montrer aux élèves de terminale, en tout cas.
Alors c'était par rapport à la question de la cohérence des politiques publiques, finalement, vous ne l'avez pas tellement abordé. Dire que ces politiques de l'emploi qui ont été mises en œuvre, notamment en France, de baisse du coût du travail, de flexibilité, elles ont quand même un impact après structurel sur l'économie française, de la même façon que, par exemple, elles ont eu un impact sur les inégalités hommes-femmes sur le marché du travail, parce que montre Françoise Milewski, que justement, en développant le temps partiel, on a accru les inégalités hommes-femmes sur le marché du travail. Et donc, de la même façon, il y a un impact sur finalement l'économie, c'est-à-dire qu'on va plutôt développer, en abaissant le coût du travail, le secteur des services plutôt que l'industrie, où le coût du travail est plus élevé. Et donc, ça a un impact sur finalement notre spécialisation industrielle, et spécialisation sectorielle plutôt. Est-ce qu'il n'y a pas justement un problème de mise en cohérence de toutes ces politiques, politiques de l'emploi? Finalement, elle n'est pas forcément cohérente avec notre politique de spécialisation.
Oui, alors, c'est un des points que je voulais aborder cet après-midi avec vos jeunes. Pour répondre vite, d'une certaine manière, on s'aperçoit, on met en place la politique de l'emploi et on s'aperçoit après coup de ses conséquences. Et après coup, on se dit, il faut être un pays plus compétitif, plus technologique ou autre. Donc il y a vraiment un problème de timing qui explique le fait, mais si vous voulez, au moment où elles sont décidées, ces politiques, pour les décideurs, c'est cohérent. Et c'est qu'après coup, on se rend compte de l'incohérence, enfin, des difficultés qu'il y a à dire en même temps, on veut être un pays qui soit à haute valeur ajoutée et subventionner l'emploi peu qualifié.
Parce qu'au début des années 90, c'était Il y avait déjà tout ce débat sur l'innovation, il y a quand même beaucoup d'économistes qui travaillent là-dessus en France, Dominique Forêt, des gens comme ça. Et justement, on voyait bien que bon, en France, on ne développait pas assez d'innovation, qu'il n'y avait pas assez de synergie avec, avec le supérieur, avec les labos de recherche publique.
Bien sûr. Donc là, vous avez tout à fait raison. Mais justement, on disait ça. Donc il n'y avait pas besoin de mettre de l'argent ou autre. Il y avait juste un problème que l'université est inadaptée d'organisation ou autre. Et donc, ce n'était pas la politique de l'emploi qu'il fallait adapter à ça, mais juste l'université, qu'il fallait ouvrir l'université aux entreprises, ce genre de raisonnement. On faisait pas, on voyait pas la difficulté vis-à-vis des autres politiques. On pensait que ça allait être résolu assez facilement par des politiques touchant l'université. À nouveau, vous pouvez regarder les rapports du commissariat au plan à cette époque-là. Ces sujets-là sont résolus, si vous voulez, très facilement, évacués, comme étant plutôt un phénomène, quelque chose qui ne soit pas... Justement, c'est ce que je dirais cet après-midi. Personne n'avait quand même... Il y avait beau voir les travaux de Forêt, personne n'avait en tête que l'économie de l'Internet serait essentielle, que les technologies de l'information, que les biotech, etc. seraient essentielles. On avait plutôt une vision, il faut de l'innovation, parce qu'il faut de l'innovation, de la même manière qu'on faisait de l'innovation dans les années 60, avec les centrales nucléaires, la Caravelle, etc. Enfin, bon, bref, c'était les années 55. Mais... Donc, voilà. Mais ce qui est commun, c'est l'absence de vision. C'est-à-dire que dans tout ça, on voit à un moment donné des difficultés, mais on ne se met pas dans la situation de se dire où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut. C'est toujours vrai aujourd'hui.
Moi, j'avais une question concernant le marché du travail, justement. Dans les modèles que vous avez cités, de nouvelles micros, pour dire très très vite, ce qu'on retient un peu, c'est la rigidité des salaires. Mais on a un peu laissé de côté, sans que vous l'ayez expliqué, tout ce qui est... Vous avez parlé des modèles de matching, finalement, les problèmes d'appariement entre les offreurs de travail et demandeurs de travail. On sait que cette année, il y a un chiffre qui est sorti, je crois que c'est 300 ou 400 000 emplois qui sont non pourvus, alors qu'on a un taux de chômage record. Comment on peut expliquer que finalement, il n'y a aucune politique qui aille dans ce sens en disant...
Alors déjà, on a 300-400 000 en France. On ne sait pas en fait vraiment tout à fait bien le mesurer. En Allemagne, il y en a 1 million. On va chercher un chiffre officiel. Bon, franchement, lorsque on essaye un tout petit peu de... On a fait quand même des politiques. Pôle emploi, ça devait être ça. Alors, après, qu'on n'ôte pas le moyen à ces politiques, c'est une autre affaire. Mais on a voulu les faire. Le fait qu'on veuille sanctionner les chômeurs, voilà, c'est du ressort également de cette politique. Maintenant, quelles en sont les conséquences de ces politiques d'amélioration de l'appariement ? Ben, jusqu'à présent, on ne voit pas grand-chose. C'est-à-dire que, en fait, les prévisions... On est dans une chose un petit peu étrange. On met en place ces politiques sur la base de modèles dont les prémices sont que cette politique est efficace. Donc, évidemment, ouais, un modèle qui dit « Le chômage est dû à des difficultés d'appariement. Je réduis les difficultés d'appariement. Je vous prédis qu'il y a moins de chômage. » Bien. Donc, c'est comme ça que se fait la décision publique. C'est parce que il y a un ordinateur qui, sur la base d'un modèle où il y a plein d'équations, et le décideur public ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière ces équations-là, on lui dit, vous faites cette politique-là, ça va vous faire moins de chômage. Alors pourquoi, en soi, ça ne marche pas fondamentalement? Justement, si on en revient aux différents types de chômage et de leurs raisons, c'est que, dans la crise actuelle, le problème, ce n'est pas l'appariement. Le problème majeur, c'est le manque d'emploi, de job. Voilà. Quant à l'appariement, le fait qu'on en ait 300, 400 000... Mais il faut bien que les choses se fassent. Là aussi, vous devez parler de la notion de chômage frictionnel. Ben, les choses se font. Voilà, vous avez quand même des situations où la mobilité des individus est de toute manière très difficile à mettre en œuvre. C'est vrai en France, mais aussi c'est vrai à l'étranger. Enfin, bon, voilà, il ne faut pas... Si vous voulez, par exemple, sur les États-Unis, une des hypothèses qui a été immédiatement avancée pour contrer l'idée que, justement, on avait une sorte de chômage keynésien aux États-Unis... C'était de dire, on a un chômage d'appariement. Alors pourquoi, d'un seul coup, il y aurait eu un chômage d'appariement? Parce que, donc l'argument était, parce qu'il y a la crise immobilière. Et une crise immobilière vous empêche de vous déplacer. Vous ne pouvez pas vendre votre maison à cause de la crise immobilière. Donc vous ne vous déplacez plus. Donc, comme vous ne vous déplacez plus, la fonction d'appareillement ne marche plus, donc il y a du chômage. Vous voyez ? Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que on voit bien les luttes entre eux, enfin les luttes entre guillemets, enfin, les oppositions qu'il peut y avoir entre les interprétations des causes du chômage en France, aux États-Unis, partout. Bon, jusqu'à présent, les travaux microéconomiques qui ont ainsi cherché à voir si c'était lié à la crise immobilière, le chômage américain, n'ont rien trouvé. C'est-à-dire que, en fait, les États-Unis étant vastes, vous avez des endroits où il y a eu crise immobilière, d'autres non, ou peu. Et il se trouve que le chômage a augmenté partout, en gros, pour simplifier. Et dans les mêmes, enfin, il n'y a pas de corrélation entre l'acuité de la crise immobilière et l'acuité de la hausse du chômage. Bon. Alors, si on en revient dans le cas de la France, ben, c'est pas très très étonnant. Vous avez par exemple beaucoup d'annonces qui sont non pourvues, par exemple en Alsace. Non, les jobs proposés en France sont 20% moins bien payés qu'en Allemagne. Bon, c'est normal que les personnes... Donc déjà, il faut avoir 5 ans d'ancienneté ou 10 ans d'ancienneté minimale, accepter un salaire plus bas en CDD, etc. En fait, lorsque vous regardez, c'est des cases où vous ne trouvez pas les personnes, tout simplement. Donc aujourd'hui, on a ces centaines de milliers d'emplois qui sont officiellement non pourvus parce que en grande partie, il n'y a pas en face de personnes qui rentrent dans les cases qui sont demandées. En outre, il faut faire attention sur une grande partie de ces emplois non pourvus sont pas du tout des emplois en CDI, même pas des CDD longs, sont des CDD courts. Il faut voir qu'aujourd'hui, vous avez, enfin en 2011, il y a eu 12 millions d'embauches en CDD de moins de un mois, dont 9 millions d'embauches en CDD de moins d'une semaine. Donc, dans une grande partie de ces emplois non pourvus, ce sont ces types de jobs. Voilà. Donc, c'est même pas... Si vous essayez même de réfléchir en disant « Mais il faudrait forcer le chômeur à prendre le truc en une semaine », admettons que oui. Mais il faut bien voir que c'est pas ça qui va changer le niveau macroéconomique de production. Parce que si vous... mettons, vous ayez 200 000 emplois de plus, enfin 200 000 en moins de ces annonces, mais que de une semaine, en fait, ça veut dire que vous les divisez par, par 52. En gros, c'est l'équivalent de 4 000 emplois que l'on peut espérer. Donc, c'est pas ça que vous n'avez pas changé l'état du marché du travail, ni le niveau de production macroéconomique, ni la croissance française, ni autre. Donc, c'est un faux problème pour la France. Voilà. De la même manière que c'est un faux problème pour les États-Unis, semble-t-il. Mais il se trouve que, ben voilà, il y a toujours quand même les débats. Enfin, c'est plutôt ma conviction là que je vous donne. Mais les débats sont ouverts. En tout cas, pour l'instant, les chiffres semblent dire que c'est des faux. C'est un faux problème. Donc, vous voyez, même on évacue progressivement toutes les hypothèses fausses. Et c'est pour ça, ça se restreint progressivement à peu d'interprétations. Ouais, vous allez m'épuiser, sinon.